Bonjour Alexandre.
Salut Frédéric.
Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce déjà quatrième épisode de notre podcast hebdomadaire sur le Tech Clash. Nous l'enregistrons le dimanche et il est mis en ligne le dimanche soir ou le lundi matin. Il s'est passé énormément de choses cette semaine et notamment vendredi soir. On a eu ce qu'on appelle en milieu média US le Friday News Dump, c'est-à-dire que Facebook, du bout des lèvres, a reconnu qu'il y avait eu des pratiques. Alors, ils ne sont pas exactement d'accord sur est-ce que c'est un data breach ou pas, mais il y avait des pratiques qui n'étaient pas conformes par la fameuse Cambridge Analytica qui avait été financée par le milliardaire Mercer et dirigée par Steve Bannon. Et tout ça, ça a été un déferlement depuis où il y a eu deux enquêtes conjointes par le Guardian et le New York Times qui révèlent qu'il y a eu des pratiques très, très, très limites de Cambridge Analytica par rapport aux données privées des utilisateurs américains pendant la campagne politique de 2016.
En fait, on avait fait un sujet sur Spicy, tout à fait modestement, où on a interrogé notamment la journaliste et un autre journaliste de The Atlantic. C'était à la fois connu et de Facebook depuis 3 ans. Simplement, il n'y avait pas de preuves aussi brutales qu'un lanceur d'alerte qui témoigne sur la méthode et sur l'impact. Donc, en tant que telle, l'histoire, tout le monde feint de la trouver extraordinaire. La réalité, c'est que Facebook était au courant, notamment le Guardian et The Atlantic avaient déjà sorti le poteau rose. Et simplement là, comme c'est le New York Times, que c'est le contexte dans lequel on est sur les fake news et autres, ça prend donc une dimension considérable. Et en plus, surtout, Facebook a banni et le whistleblower et Cambridge Analytica. Donc on voit bien que là, ils essayent de manière d'ailleurs effectivement extrêmement maladroite d'anticiper sur leur comment dire leur responsabilité ou en tout cas le fait qu'ils sont tenus et ils sont au courant depuis très longtemps sur cette histoire.
Alors, il y a deux conséquences politiques immédiates et on les effleurait la semaine dernière. On a trois responsables et bientôt quatre responsables politiques américains de premier plan qui prennent position. On a le sénateur Mark Warner de Virginie qui dirige ou qui co-dirige plutôt en tant que démocrate puisqu'ils n'ont pas la majorité le Intelligence Committee, donc c'est quand même pas n'importe qui. Il a l'avantage d'être un entrepreneur de la tech et lui dit depuis plusieurs jours que cela suffit et qu'il va falloir convoquer pas seulement Facebook, également Google, YouTube, Twitter, tous les réseaux pour tirer au clair ce qui s'est passé pendant la campagne de 2016 et prévenir une redite pour 2018, c'est-à-dire tout de suite. On a sa collègue également démocrate, la sénatrice Amy Klobuchar, qui a dit de manière très claire hier soir à la lecture des deux papiers que là aussi il fallait convoquer Mark Zuckerberg directement. Mark Zuckerberg, je le maintiens,
C'est la une du Guardian
voilà,
d'aujourd'hui.
devant le Congrès. Et ce qui est intéressant,
Non,
c'est...
oui, devant le Parlement, devant la Chambre des communes.
Alors attends, ça c'est pour... Là, je finis le contexte américain. Et après, tu as Damien Collins, qui est un membre des communes UK, qui a déjà lancé une enquête, qui s'est déplacé pour la première fois, et c'était très notable, aux États-Unis. Tu as eu une commission des communes UK qui est venue à Washington interroger tout ce monde-là, mais il n'y avait là encore que les seconds couteaux. Et Damien Collins, ce matin, donc dimanche, a envoyé un communiqué pour dire: Monsieur Mark Zuckerberg, je viens de vous inviter pour venir témoigner devant notre commission. Donc on a des deux côtés de l'Atlantique le politique qui s'en mêle. On a les grands Manitou, on va dire, de la Big Tech qui continuent de souffler sur les flammes pour demander la régulation des réseaux. Hein, je reparle de Marc Benioff, le patron de Salesforce, qui maintient sa position et qui souffle sur les flammes. C'est quand même, pour moi, un contexte assez inédit où des deux côtés de l'Atlantique, le politique
Alors,
embraye.
pour bien comprendre, hein, pour bien comprendre oui. l'excitation, là encore, on avait mené l'enquête. Historiquement, ce qui se passe, c'est que c'est la victoire du Brexit qui met en lumière les qualités, on va dire, de Cambridge Analytica et de ses méthodes. Et c'est ça qui fait que l'équipe de Trump utilise les méthodes poussées par Mercer, qui est le propriétaire de Cambridge Analytica, il ne faut pas l'oublier, à ce moment-là, poussées par Mercer, à employer les méthodes qui ont si brillamment réussi et à déployer avec Steve Bannon les mêmes méthodes aux États-Unis pour gagner. Et l'excitation politique en Angleterre, elle est aussi très puissante parce que ce qui se joue derrière, c'est sans doute une remontée ou une remise en cause des méthodes qui ont permis au Brexit de gagner. Il y a eu une déclaration de Sadiq Khan, le maire de Londres, la semaine dernière, qui appelait à la régulation des réseaux, notamment autour des fake news.
À partir de South by Southwest, qui est la grande messe technique. Voilà.
Et il y a eu le Guardian, qui est quand même au centre de cette histoire depuis le Brexit et bien avant, avec cette fameuse journaliste qu'on suit tous, Carol Caldadwart, je crois, qui a sorti ce whistleblower. À mon avis, elle l'avait depuis très longtemps. Encore une fois,
elle l'a dit.
Mention à notre film de Spicy qui s'appelle Trumping Democracy en anglais, aux États-Unis et qui s'appelle Unfair Games en France, qui est toujours en ligne. Ils avaient dénoncé cette disruption de la démocratie qui était en train de se faire à travers les réseaux sociaux, en particulier avec Facebook. Aujourd'hui que les preuves sont là, il y a fort à parier que le passage devant les communes ne sera pas une partie de plaisir. Je me souviens de la manière dont Murdoch avait été secoué par les parlements anglais, surtout si ce qui est derrière, c'est la campagne pour revenir sur un nouveau référendum et contester les résultats du Brexit. Donc je crois que c'est ce contexte-là qui explique cette excitation. Ceci dit, il ne faut pas du tout imaginer que les big tech sont naïfs. Je pense qu'ils sont en train de travailler d'arrache-pied pour éviter ces auditions. Et par ailleurs, toutes les mesures qui sont en train d'être prises par les réseaux en ce moment sont de nature à montrer que maintenant qu'ils ont pris conscience, ils vont prendre leurs responsabilités et essayer d'échapper à la vindicte politique.
Alors, moi je suis un peu moins mesuré que toi là-dessus. Dans le contexte américain, il se passe des choses assez intéressantes et inédites. On a le politique donc, qui embraye sur la Big Tech. Et dans la Big Tech, moi, je mettrais en avant deux groupes, en fait. Je pense qu'il y a des gens qui sont éclairés et qui comprennent ce qui se passe. Je parle de Marc Benioff, je parle de Bill Gates, qui est à la manœuvre dans la coulisse. Je parle de Jeff Bezos d'Amazon, en partie de Google. Mais je pense que Google, il y a deux camps là aussi. Je pense que Sundar Pichai, il a compris, mais il ne sait pas faire. Et le fait que Eric Schmidt soit un petit peu retiré des opérations là-dessus, ça leur cause du tort. Donc ça, on a ce groupe-là. On a un autre groupe, et Mark Zuckerberg en est le représentant. On a un Mark Zuckerberg qui, manifestement, soit ne comprend pas, soit ne veut pas faire comprendre qu'il comprend ce qui se passe. Et la façon hyper maladroite dont il laisse certains de ses sbires communiquer en direct sur Twitter et après effacer les tweets qui s'est passé hier soir, ça traduit un espèce de sentiment de panique. Je mets en avant ce qui a été dit par les politiques cette semaine. Ils ont dit, voilà, en 2001, après le 11 septembre, même si les CEO des grandes compagnies aériennes n'avaient rien à se reprocher, etc., ils sont venus et ils ont répondu à l'appel. On est une démocratie, on vous appelle, on vous convoque, vous venez. Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, Sundar Pichai, Susan Wojcicki ont été convoqués. Ils ne sont pas allés et ils ont envoyé des seconds couteaux. Le Sénat américain l'a très mal pris, l'a dit. Il a dit c'est la dernière fois. La prochaine fois, c'est avec subpoena. Et subpoena, c'est comme si tu es convoqué par un tribunal. Et les Américains ne badinent pas avec ça du tout. Et ils trouvent de manière assez juste, je pense, que tous ces big tech se prennent un petit peu pour le nombril du monde et n'ont pas tellement compris dans quel pays ils vivent. Donc, je ne pense pas du tout qu'il va y avoir une possibilité pour eux de se défiler, mais ils vont certainement se pointer, et notamment Zuckerberg, plead the fifth, comme on dit, c'est-à-dire ne pas se self-incriminate, et ils ne diront rien, ce qui va causer un tort magistral à leur valorisation boursière. On le disait avant l'enregistrement, c'est vraiment ça qui va changer la donne, c'est quand les financiers vont comprendre que bah, y a de l'argent en jeu. Je note quand même, et tu as raison sur le Brexit à 200%, il y a quand même une histoire de dizaines de milliards en jeu là, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que Mme May, elle a une facture assez conséquente pour le Brexit à négocier. Donc, ce n'est pas des enfantillages, ce sont des espèces sonnantes et trébuchantes là, qui sont en jeu des deux côtés de l'Atlantique.
Alors, moi, je crois qu'il y a une crise politique. Si jamais les patrons des réseaux sont incriminés, ce qui reste à démontrer. Deuxièmement, il y aura un
crime, peut-être pas, mais interrogé, oui, ils seront interrogés.
Il y aura une vraie problématique économique. C'est d'ailleurs l'angle que semble prendre l'Europe avec la volonté fiscale d'attaquer les GAFA. C'est manifesté en France par des déclarations du ministre de l'économie Bruno Le Maire. Il me semble que le retour de Angela Merkel va favoriser ce genre de démarche. Il y a toujours eu une extrême méfiance de la part de Merkel à l'égard des GAFA, sachant qu'elle a été écoutée par la NSA, mais que globalement, l'ancienne jeune femme élevée dans les pays de l'Est et qui a connu la Stasi et qui déteste être sur écoute, règle aussi ses comptes de manière fiscale avec les GAFA. Et je pense que ça, c'est peut-être le vrai moment où le tech clash va atteindre son but. Parce que les excitations politiques, vu l'impact et l'implication complète pour les Républicains dans, disons, cette manipulation de Facebook, elles auront du mal à sortir aux États-Unis. Si l'Europe met en action sa menace fiscale. Là aussi, on parle de dizaines de milliards qui, d'habitude, rentraient dans les comptes, et pas simplement de Facebook, de l'ensemble des GAFA qui seront en lice. Il y a aussi toujours la commissaire européenne
Vestager,
qui fait des amendes, Vestager. Donc, je crois que c'est peut-être de cette conjonction de crise politique et de scandale politique et d'une véritable mise en place d'une politique fiscale au niveau européen soutenue par la France et l'Allemagne sur les revenus finalement des GAFA qui peuvent avoir un impact coordonné
et conséquent
sur les valeurs et conséquent.
Tout à fait.
Donc, je crois que c'est cette coordination, c'est cette concomitance d'événements qui peut provoquer quelque chose. Dernier point, je crois que tu as raison aussi d'insister, Google et YouTube en particulier, seront aussi de la fête, parce qu'on se rend compte, ça a été démontré il y a quelques semaines, que finalement, le réseau vidéo est tout aussi perméable et tout aussi utilisé. Et pour les fake news, la manipulation et globalement, toutes les déformations de l'information qu'on connaît bien maintenant.
Oui, et cette semaine, Suzanne Wojcicki, donc qui est la CEO de YouTube, s'est fait prendre la main dans le sac dans ses propres contradictions. Parce que ce qu'il faut savoir, hein, c'est que YouTube, qui s'est lancé en 2005, a toujours modéré ses vidéos, toujours, pour éviter deux choses, la pornographie et l'extrême violence. Donc maintenant, quand Suzanne Wojcicki dit de manière tout à fait bancale et très, très, très mal amenée, qu'elle ne sait pas bien comment éventuellement trouver des voies d'autorité pour... On est là dans la contradiction totale avec le fait qu'il y a déjà un contrôle éditorial qui, au passage, est exercé également par Twitter, qui, de ces dernières semaines, n'a pas arrêté d'enlever des voix discordantes d'extrême droite, etc., du réseau. Donc ça, c'est du contrôle éditorial. YouTube fait la même chose. Google fait la même chose. Donc là, en fait, ils sont pris dans leur contradiction et ils ne pourront plus dire « nous sommes comme la Poste ». Ils ne le sont pas comme la Poste. Ils sont des réseaux d'échange d'idées, exactement comme la télévision et la radio, et ils vont être soumis à la régulation, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent.
Eh bien, écoute, ce sera le prochain épisode du Tech Clash la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Merci,
salut,
Alexandre.
Salut, Frédéric.